Absolument. Bonsoir, Jean-Roger. Très bon week-end à vous.
On devait causer.
I have a dream. It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Nous sommes le vendredi 13 septembre 2024 et il est 19h05 en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de l'Amérique et vous. Au micro, Jacques Aristide en direct du studio 9 de la VOA à Washington. De l'autre côté de la vitre, Joselle Morissin pour la mise en onde. Ce soir, l'après-débat Harris-Trump. En effet, nous nous intéressons au duel télévisé qui a eu lieu mardi dernier entre la vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump avant la présidentielle américaine du 5 novembre. Ce face-à-face a-t-il marqué un tournant dans la campagne ? Pourquoi ce scrutin suscite-t-il un vif intérêt à l'étranger, y compris en Afrique ? Le modèle des débats présidentiels aux États-Unis est-il adaptable à la réalité politique de pays africains ? Analyse et commentaires à venir. Invités pour nous accompagner jusqu'à 19h30, Néma François Chérif, juriste et politologue basé ici même dans la capitale américaine. Bonsoir Néma François.
Bonsoir Jacques.
En direct de la ville d'Annapolis dans l'état du Maryland, le professeur Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group. Bonsoir professeur Seznec.
Bonsoir Jacques, bonsoir.
Et en ligne de la République démocratique du Congo, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques en relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Bonsoir à Frédéric.
Bonsoir Jacques.
Jean-François Seznec, je commence par vous. Ce débat a-t-il révélé une Kamala Harris prête à porter l'héritage de Joe Biden tout en s'en affranchissant, ou un Donald Trump capable de ressusciter sa base et de séduire les indécis?
Je pense que Trump n'a pas vraiment réussi à servir sa base. Je pense que Kamala Harris a fait une prestation assez extraordinaire et bien sûr en a profité pour que Trump se montre plutôt vieux et en fait un peu comme Biden s'était présenté à la dernière discussion, et je pense qu'effectivement, c'était une très bonne affaire pour Kamala Harris, en tous les cas.
Néma François, la confrontation télévisée entre Kamala Harris et Donald Trump a-t-elle réellement modifié les dynamiques de la campagne présidentielle ? A-t-elle donc marqué un tournant ou a-t-elle tout simplement renforcé les convictions des électeurs déjà polarisés, tant du côté des démocrates que celui des républicains ?
Jacques, bon, moi j'ai traversé, j'étais hier, au niveau des cartes. J'ai quitté Washington jusqu'à Ohio, et en traversant la West Virginie, la Pennsylvanie, qui est un état clé aujourd'hui pour les élections, oui. Et l'état d'Ohio. Mais quand vous allez en dehors des grandes villes, la lecture du débat est complètement différente. Dans les campagnes, Trump reste toujours le maître absolu des lieux. Quand vous venez en ville où il y a les concentrations, vous voyez, il y a toutes sortes de types d'électeurs qui se retrouvent là-bas, je crois qu'ils ont tendance à favoriser toute la femme, Kamala, la vice-présidente, a eu un léger, un léger point par rapport à Donald Trump. Mais comme on dit dans la politique américaine, la bonne parole ne suffit pas, n'est pas seulement suffisante, mais il faut, on regarde d'autres aspects, la nature économique, ton option par rapport aux problèmes sociaux, et les relations internationales, l'influence internationale, tout ça constitue. Et pour le moment, ce que j'ai vu à l'intérieur même des États-Unis, les électeurs qui sont pro-Trump restent encore mobilisés pour Trump.
Frédéric Amani, l'Afrique et d'autres régions de la planète ont des attentes spécifiques en matière de politique étrangère américaine, notamment sur les questions d'immigration et de coopération économique. Les candidats ont-ils réellement répondu à ces attentes lors du débat?
Et je pense que ce débat suscite un intérêt pour l'Afrique dans la mesure où, il faut le dire ou le rappeler, que les États-Unis c'est une grande puissance et en tant que tel, les États-Unis participent, si vous voulez bien, à la définition de la gouvernance mondiale et les États africains sont attentifs, n'est-ce pas, pour voir qui va présider à la destinée et des États-Unis, mais aussi du monde au travers de la politique étrangère. Et je pense que l'attente est là dans la mesure où, pour Trump, il veut refouler les immigrés alors que cela va créer beaucoup de problèmes et aux États-Unis et en Afrique. Mais pour Mme Kamala Harris, voudrait, n'est-ce pas, gérer cette question avec beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de prudence, beaucoup de lucidité, en mettant en place des mécanismes pour éviter cette immigration clandestine. Et je pense que l'Afrique est patiente de voir qui va l'emporter, mais je pense que avec les débats qui a eu lieu, Madame Kamala Harris a beaucoup de chances de l'emporter, selon les Africains que j'ai entendu, dans la mesure où on a besoin d'un président ou d'une présidence américaine qui essaie, tant soit peu entre guillemets, de mettre de l'ordre dans certains États, bien que cela peut être jugé d'ingérence.
Mais je Frédéric Amani, nous sommes à quelques deux mois de ce scrutin. Évidemment, personne ne peut prédire. Jean-François Seznec, l'économie demeure l'un des thèmes centraux de cette campagne. Qui, selon vous, a su convaincre les électeurs sur ce point lors du débat et pourquoi?
Écoutez, beaucoup de gens disent que Trump est beaucoup plus fort sur les affaires économiques que Kamala Harris, mais moi, ce n'est pas du tout l'impression que j'ai eue en regardant le débat. J'ai eu l'impression plutôt que Kamala Harris avait un contrôle beaucoup assez fort des notions de l'économie et des problèmes que l'Amérique a, et que les phrases de Trump très fortes sur l'immigration en particulier pourraient créer des problèmes terribles pour l'économie américaine qui perdrait beaucoup de ses emplois. Et en plus, si Trump met entre 30 et 80 et 100% de tarifs de taxes sur les importations, ça créerait une inflation terrible. Et je pense que les gens se sont rendus compte de ça. Et peut-être que, bien qu'il ait beaucoup de succès, si vous voulez, avec ses vues sur l'économie, je pense que dans le cas du débat d'avant-hier, c'est Kamala Harris qui a fait le plus de sens.
Oui, les questions d'économie, il est également question d'immigration. Justement, Neymar François, au cours du face-à-face mardi soir, Donald Trump a de nouveau soulevé des accusations jugées non fondées sur l'immigration. D'ailleurs, hier jeudi, lors d'un meeting en Arizona, il a une nouvelle fois évoqué des rumeurs selon lesquelles des migrants haïtiens voleraient des chiens et des chats pour les manger à Springfield, une petite ville de l'Ohio. Des rumeurs déjà démenties par les autorités de cet État. Neymar François, est-ce un calcul politique audacieux de sa part ou, comme le disent ses détracteurs, un indicateur de la détérioration de son discours électoral?
Non, moi j'ai une autre lecture. Moi je me dis que le candidat Trump a été toujours sur l'arène politique américaine une autre figure. C'est un politicien hors norme. Et il a avancé des choses plus graves que cela, et ça ne lui a pas coûté l'électorat. Et tout ce qu'il dit aujourd'hui par rapport aux immigrants, ce qu'il accuse les autres de faire pour favoriser les immigrants, la rentrée clandestine, tout ça, ce sont les jeux politiques. Il sait pourquoi il l'a dit, il savait que c'était une rumeur, mais il a préféré officialiser ça. Mais pour que les démocrates se défendent, ou qu'on l'accuse, C'est-à-dire c'est un peu la stratégie de déplacer le débat sur des futilités qui n'intéressent pas réellement les Américains.
Frédéric Amani, comment les débats présidentiels aux États-Unis sont-ils perçus à l'étranger, notamment en Afrique, y compris chez vous en RD Congo? Et quelle influence ont-ils sur la manière dont les élections et la démocratie américaine sont comprises hors des frontières des États-Unis?
Bien, les débats présidentiels sont appréciés en Amérique dans la mesure où l'Amérique est une vieille démocratie et l'Amérique aussi sert des modèles démocratiques pour la plupart des pays africains et que ces débats devraient être dupliqués dans beaucoup de pays pour permettre, parce que ces débats sont une occasion pour présenter le programme des sociétés, si vous voulez bien, de chaque candidat. Et ce qui a toujours fait défaut en Afrique, où les challengers au niveau présidentiel ne se retrouvent pas pour présenter les projets de société. Et malheureusement, en Afrique, la plupart sont élus par leur appartenance régionale, tribale, alors que c'est grâce au débat où les électeurs devraient choisir le meilleur candidat. Et je pense que ces modèles servent de garde-fous dans la mesure où l'électeur a la possibilité de rappeler au candidat ce qu'il a promis lors des débats qu'il n'a pas fait, et cela permet à ce que, n'est-ce pas, les choses aillent de l'avant.
Messieurs les invités, s'il vous plaît, restez avec nous, et vous aussi, chers amis fidèles de la VOA, vous êtes à l'écoute de l'Amérique et vous, une émission que vous propose VOA Afrique chaque vendredi à partir de 19h05 en temps universel.
L'Amérique et vous en direct de Washington.
Oui, vous écoutez l'Amérique et vous, un programme de VOA Afrique. Mille fois merci de votre fidélité. Jacques Aristide avec vous ce soir. Il est question de l'après-débat Harris-Trump. Et nous retrouvons nos invités, Néma François-Chérif, juriste et politologue basé à Washington DC, de la ville d'Annapolis dans le Maryland, Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group, et en ligne de la RDC, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Jean-François Seznec, des observateurs et des médias relèvent que Kamala Harris s'est efforcée de se dissocier de Joe Biden sur certains sujets. Est-ce une stratégie gagnante ou un signe de faiblesse face aux critiques républicaines sur le bilan de l'administration actuelle?
Non, je pense que le fait qu'elles veulent être différentes de Biden est en fait un atout. Et surtout sur les affaires internationales, elle a des positions qui sont moins pro-Israël, par exemple, que Biden, qui pourrait peut-être faire un peu plus plaisir à son aile gauche et aux gens aux États-Unis qui sont plutôt pro-palestiniens, et il y en a quand même beaucoup. Donc ça aide un petit peu, et je pense qu'elle a, elle a raison de se séparer de Biden. Ça lui fera beaucoup de points, je pense, avec les gens qui n'étaient pas enthousiasmés par Biden.
Oui, en tout cas, des médias américains comme Newsweek notent que la vice-présidente a tenté de justifier son abandon des causes libérales au profit de positions plus modérées sur, par exemple, la fracturation hydraulique, l'immigration, les voitures électriques et l'assurance maladie pour tous. Néma François, la position de Kamala Harris sur l'avortement semble séduire une majorité des femmes américaines. Ce sujet est-il devenu le champ de bataille clé de cette élection, où l'économie et la sécurité internationale finiront-elles par dominer?
Pour le moment, non, puisque Trump n'est pas à sa première fois de participer à des débats et n'est pas non plus à sa première fois pour affronter de telles questions. Il a toujours divagué depuis le débat qu'il a eu avant d'avoir le premier mandat. Il a toujours divagué sur la question. Et son vice-président Vince aujourd'hui est en train de nuancer la position. Et je vous dis, ce qu'il faut retenir de Trump est que Trump n'est pas un politicien traditionnel américain. Il n'était pas dans le spectre des deux camps. il est sorti, il s'est affiché du côté des Républicains. Donc, il n'a jamais pris une position très rigide par rapport à certaines questions essentielles chères au Parti Républicain. C'est pour cela qu'il il rejette, il divague pour embrouiller et ne pas faire ces questions-là, une question essentielle, et en rejetant cette responsabilité au niveau des États, pas au niveau fédéral.
Frédéric Amani, pourquoi les choix politiques américains résonnent-ils bien au-delà des frontières de ce pays? Pourquoi donc cette campagne présidentielle américaine est-elle suivie avec autant d'intérêt à l'étranger, y compris en Afrique?
Bien, c'est parce que les États-Unis, comme je l'ai dit, participent à la gestion de la gouvernance mondiale et que, avec l'expansion de la Chine et de la Russie au niveau africain, je crois que l'Afrique a besoin de savoir qui va présider, n'est-ce pas, à la destinée du monde au travers, n'est-ce pas, la politique étrangère américaine pour essayer de gagner encore du terrain depuis un temps où l'influence chinoise et russe semble, n'est-ce pas, détrôner celle américaine. Mais ensuite, je crois que l'Amérique reste un modèle, que ce soit du point de vue démocratique ou du point de vue gouvernance, et cela suscite d'intérêt pour l'Afrique pour essayer de faire un mimétisme, copier ce qui y va pour dupliquer ça en Afrique pour la bonne marche et pour contribuer au progrès démocratique.
Justement, à propos des débats présidentiels, des commentateurs notent que dans plusieurs pays africains, les débats politiques entre candidats sont rares ou souvent limités. Donc certains se demandent s'il y a peut-être des avantages que certains pays pourraient tirer de l'organisation de débats télévisés similaires à ceux des États-Unis en termes de transparence démocratique et de mobilisation des électeurs. Justement, Jean-François Sesnec, le modèle des débats présidentiels américains, souvent très polarisés et médiatisés, est-il adaptable à la réalité politique ailleurs dans le monde, comme en Afrique par exemple, où les systèmes électoraux et les attentes citoyennes diffèrent, ou faudrait-il repenser ce format pour qu'il soit pertinent ailleurs dans ces pays?
Je ne sais pas si je peux répondre à ça parce que je ne connais pas vraiment les systèmes dans les pays africains, mais il est certain que le système américain est aussi assez dangereux parce que ça crée beaucoup d'expectations du monde entier et on est toujours un petit peu déçu de ce qu'on attend, de ce qu'on entend. Mais d'un autre côté, les insultes et qui se passent d'un côté et de l'autre mettront les gens un peu à faire attention dans d'autres pays parce que ça pourrait créer en fait des tensions dans la société qui seraient peut-être difficiles à contrôler. Alors qu'ici, aux États-Unis, bon, c'est déjà plus bon et courant, si vous voulez.
En tout cas, cette question concernant les débats présidentiels a attiré quelques commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Par exemple, il y a ce commentaire de Basile Yaou Kofi d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Pourquoi voulez-vous forcément adapter le modèle des débats américains aux pays africains et pas l'inverse? Et il y a également ce commentaire de Kaïté Kalunga Prosper de Lubumbashi. Il écrit ceci. C'est un modèle qui renforce encore la cohésion nationale. Les politiques ne sont pas les ennemis, mais plutôt les acteurs qui se battent à travers les différentes idées. C'est un modèle qui doit interpeller un peu les Africains pour calmer ces différents conflits sur le plan politique. Voilà pour cet aspect. Alors, la question de la crédibilité internationale des États-Unis a été abordée lors du débat avec des visions divergentes du rôle des Américains dans le monde, mais peu d'idées d'après des observateurs pour sortir des crises actuelles comme les guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza. Néma François, pensez-vous que ce duel a renforcé ou a affaibli la perception de l'Amérique à l'étranger?
Moi, je ne crois pas que la perception de l'Amérique à l'étranger a été affaiblie. Par contre, le monde aujourd'hui fait face à des crises. La crise ukrainienne est là. La menace de l'émergence chinoise est prise au sérieux aux États-Unis. L'effort d'affaiblir la Russie et son implication dans les pays africains avec le support de Poutine aux poussistes qui sont au pouvoir en Afrique, fait en sorte que l'Amérique est vue par le monde entier comme la solution à beaucoup de problèmes dont le monde fait face en tant que leader mondial. Donc moi je me dis que ce débat, que le monde entier ait accès à la position de chaque candidat a été vu comme une sorte de garantie pour ceux, pour les situer chacun par rapport à ses intérêts, par rapport à la politique américaine. Donc je me dis que c'est un point fort et que les autres pays africains devraient s'efforcer, comme l'a fait la Côte d'Ivoire en a fait, Laurent Gbagbo Ouattara, il y a eu un débat, au Kenya, il y a eu des débats, et que les autres pays puissent au moins donner la possibilité aux prétendants aux élections présidentielles de pouvoir donner leur point de vue par rapport à leur programme. Mais ce n'est pas la faute aux pays africains, il y a des grandes puissances qui ne sont pas seulement l'Amérique, qui ne font pas. Là, en Russie, il n'y a pas de débat. En Chine, il n'y a pas de débat. On ne peut pas toujours dire que c'est l'Afrique qui doit copier l'Amérique. Mais les jours, on doit tous copier ce qui est bon pour l'humanité.
Frédéric Amani, lors de ce duel télévisé, Donald Trump a également accusé Kamala Harris d'être manipulable par des dirigeants internationaux, notamment par Vladimir Poutine. Ce type d'attaque a-t-il un impact réel sur la perception du leadership de Kamala Harris à l'international?
Bien, au contraire, je crois qu'il répliquait aussi à la réponse ou à la question de Mme Kamala Harris qui lui a dit que Donald Trump serait, n'est-ce pas, à la traîne des dictateurs. Moi, je pense que le leadership de Kamala Harris est démontrable. Elle a été sénatrice, procureure et avec aussi le mandat passé aux côtés de Biden. Je crois que c'est une dame qui sait frayer un chemin et impose son leadership et je crois qu'elle fera et mènera la politique étrangère des États-Unis en Afrique de manière bien, je l'espère, et nous attendons les résultats le 5 novembre pour juger, n'est-ce pas, qui va être le président des États-Unis pour aider l'Afrique à aller de l'avant au travers, n'est-ce pas, une politique étrangère américaine qui va aider, qui va contrer l'expansion chinoise et russe en Afrique. Je crois que c'est à ce niveau où on attend les États-Unis au niveau africain.
Jean-François Seznec, Donald Trump a aussi affirmé pouvoir résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures s'il était élu. Quelle crédibilité accorder à cette promesse et pourquoi semble-t-elle résonner auprès d'une partie de l'électorat?
Ouais, je pense qu'il n'y a absolument aucune chance que Trump résoudre la crise ukrainienne, sauf s'il donne les clés de l'Ukraine à Poutine, ce qui a l'air d'être son intention. En fait, c'est beaucoup plus grave que ça, parce que non seulement, à mon avis, il est en train de nous dire qu'il allait donner les clés de l'Ukraine à M. Poutine, mais il donne aussi les clés de Taïwan à la Chine, et bien sûr les clés d'une annexation des territoires occupés à Israël. Donc je pense que ça c'est peut-être pas assez bien compris par les républicains, mais je pense que effectivement beaucoup de gens ont peur que M. Trump laisse gagner tous les extrémistes, quoi.
Néma François, une réaction très rapide si vous pouvez.
Bon, moi je dis souvent que ce n'est pas le cas, puisque nous avons vu Trump menacé pendant son premier mandat, pendant la campagne qui lui a permis d'être président des États-Unis, avait menacé les immigrants qui va déporter tout ce qui était là. Il est venu, il a fait 4 ans, il a déporté moins que le président Obama. Obama a déporté plus. Voilà. Malgré qu'il a fait 8 ans, mais pendant le premier mandat d'Obama, il avait déporté plus. Et Trump peut parler.
On va y revenir, voilà, merci beaucoup. C'est tout pour l'Amérique et vous, édition du vendredi 13 septembre 2024. Merci à nos invités, Frédéric Amani, Néma François Chérif et Jean-François Seznec. Joselle Morissin a assuré la mise en onde. Nouveau rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit. Jacques Aristide du Studio 9 à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée, un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de la VOA. Take care, merci.